vinaigre, le chabtso pour le rendre solide. Voilà, il y en a qui mettent dans une espèce de d'ustensile en osier, comme ça que les gens faisaient les yaourts avant. Noten akum, il met le koum. Le koum, c'est le lait qui a commencé à cailler. Ça s'appelle du koum. Betocho, ume chalav, notfin. Et à ce moment-là, quand vous mettez le koum, l'eau coule par en dessous, il ne reste plus que le fromage. Kolze bichlal mechabetz. Tout ça, ça fait partie du travail qu'on appelle, enfin, du travail, du, la fabrication du fromage. Et la fabrication du fromage est interdite Shabbat parce que c'est une tolada, c'est une conséquence de borer, de trier. Que pour faire le fromage, vous êtes obligé de trier, de rendre l'eau, pour que l'eau s'en aille et qu'il reste que la matière solide. C'est ça c'est le principe du fromage. On appelle ça mégaben. Mégaben, la chandina. Donc c'est un sous travail de borer, de trier. Vous triez l'eau, vous enlevez l'eau, et vous voulez garder le fromage. Donc à la lumière de cette halakha sur le fromage, on en est venu à soulever la question de faire de la glace. Vous voulez faire une bonne glace Shabbat, donc vous avez fait votre glace, et est-ce que vous avez le droit de faire ça Shabbat? Alors il y a une DA très, très spéciale qui permet, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et la majorité des décisionnaires interdisent. Pourquoi ils interdisent de faire la glace? Pour plusieurs raisons. Quand vous faites une glace, vous ne mangez pas la glace fondue. D'accord? Vous mangez une glace solide. Donc le fait que vous mettiez la glace, même si le mélange que vous avez fait, d'accord, de la vanille, du lait, du chocolat, des œufs, etc. Le mélange en soi, il n'est pas interdit. D'accord, vous avez fait un mélange. Il n'a rien d'interdit en lui-même. Tout ça, ce sont des liquides que vous avez mélangés. Maintenant, le fait que vous mettiez ça dans votre congélateur, vous allez faire congeler la glace, et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle du tour nolad. Vous allez créer quelque chose, nolad. D'accord ? Nolad, c'est un tour qui est amené. Chacun sait que tout ce qui naît Shabbat ou Yom Tov n'a pas le droit de s'en servir. Nolad. D'où on l'apprend, du fait de là que le Shabbat, tout s'arrête. Donc, tout ce qui n'a pas été visible à l'entrée de Shabbat prend une nouvelle forme. Alors, ça s'appelle Nolad, et c'est donc inexistant en fait. Vous avez mangé, utilisé quelque chose qui est inexistant. D'accord ? Non, vous avez fait un nolad, vous avez créé une nouvelle existence. Avant c'était une soupe et vous en avez fait une glace. Donc il y en a qui est interdit à cause de ça. Donc une autre DA dit que c'est interdit à cause de bonnet. Bonnet. Ça s'appelle construire. D'accord? Quand vous transformez quelque chose de liquide en solide, vous êtes bonnet. Troisième idée, qui est très originale aussi. Dans les 39 travaux de Shabbat, quel est le dernier travail? Pardon? Pas le dernier, ça. Quel est le dernier travail de Shabbat? Allons, allons, comment dire en français, technicien du Shabbat. Tous les êtres humains doivent connaître les 39 travaux de Shabbat parfaitement, sur le bout des doigts. Et les dérivés aussi, c'est évident. Les femmes doivent aussi faire le Shabbat, pas que les hommes. Alors, pourquoi surtout les femmes? Alors, même petit. Quel est le dernier travail de Shabbat? De tous les 39 travaux qui sont cités, quel est le dernier qui est cité? Le dernier travail de Shabbat. Plus vous parlez et plus vous me donnez envie de claquer la porte. Bah oui, non, je passe mon temps à vous en faire, mais vous, ça rentre dans une oreille et ça ressort des deux autres. Je vous ai entendu, je n'ai pas répondu pour ne pas m'énerver. Borer, c'est ce qu'on voit, c'est là, au milieu. C'est quoi le dernier travail? Vous ne savez pas. Très mal. Comment vous dites? Ben ouais, dites-les-moi les 39, comme ça vous serez le dernier. Le dernier, c'est Makebepati. Donner le dernier coup pour que le travail soit terminé. En français, ça s'appelle le fini. Quand vous enlevez les derniers fils d'un habit, vous donnez le dernier coup pour qu'un travail soit fait, ça s'appelle makebepati. Tout artisan, quand il termine le travail avant de le livrer, eh ben, il donne un coup de finition. Ça s'appelle Makebepati, c'est le 39e travaux. Des travaux. Honte à vous de ne pas le savoir. Donc, vous ne savez rien et vous n'avez même pas honte. Ah, d'accord. Donc, Makebepati, c'est exactement ce que vous faites quand vous faites de la glace. Le fait de transformer le chocolat, le lait, la vanille, etc. en quelque chose de solide. Vous avez donc donné le dernier coup de finition à ce que la glace soit consommable. Vous avez compris? Ça s'appelle Makebepati, frapper avec le marteau. Donc il y en a qui interdisent la fabrication de la glace à cause de ça. Tout était bien, mais il manquait un détail fondamental pour que votre glace s'appelle une glace, c'est qu'elle soit dure. Et vous l'avez rendue dure. Voilà. Vous avez compris? Alors, que se passe? Donc, on voit donc en règle générale, donc on ne peut pas faire de la glace Shabbat. Maintenant, si la glace a été faite avant Shabbat, vous avez fait votre préparation dans l'après-midi, et vous avez mis ça dans votre congélo, et quand vous ouvrez votre congélo, vous voyez qu'effectivement, la glace n'est pas prête. Est-ce que vous avez le droit quand même d'attendre qu'elle soit prête pour la manger? Vous l'avez pas fait Shabbat, vous l'avez fait avant Shabbat. Vous l'avez mise dans le congélo, vous avez fermé le congélo. Comme il fait trop chaud, le congélo n'est pas assez fort. Et donc, quand vous ouvrez le tiroir, vous vous rendez compte que la glace est encore molle. Elle n'est pas faite. Vous avez le droit d'attendre pour qu'elle soit prête ou pas? Voilà, c'est ça. Comme vous avez fait le travail avant Shabbat, donc c'était le frigidaire qui aurait dû finir la suite. C'est pas vous qui deviez faire. C'est la faute du frigidaire. Donc vous avez le droit d'attendre qu'elle soit faite. Deuxième cas de figure, vous avez le droit aussi, c'est quand elle s'est décongelée. Alors, vous avez servi 11, il reste trop de parts, et vous attendez les invités pour le petit 4 heures. Donc vous avez le droit de les remettre puisque votre glace a déjà été une glace. Donc vous pouvez pas dire que vous faites une finition puisqu'elle a déjà été une glace. Voilà. Oui, elle se resolidifie quand vous la recongelez. D'accord? Vous avez le droit de faire ça parce que elle a été déjà une glace. Donc ni il y a un digne de Nolad, il n'y a pas une nouvelle naissance puisqu'elle était déjà une glace. ni maquiller le pâtis, puisque on n'avait pas fignolé quelque chose, c'était déjà fini, ni à le sujet de bonnet, puisqu'elle était déjà construite au départ. Donc vous pouvez la refaire. Voilà. Maintenant, la même chose pour les glaçons. Des glaçons. Pourquoi aurait le temps de faire des glaçons? D'abord, premièrement, parce que ce n'est pas vous qui faites le glaçon, c'est le. Vous ne faites qu'une action de mettre l'eau dans le congélo. Ce n'est pas une action matérielle de transformation. C'est la chose qui se fait d'elle-même. D'accord? Et deuxièmement, ce n'est pas comme la glace. Dans la glace, vous n'avez pas l'intention de la manger molle. Bon? La mangez pas molle, sinon. Quelqu'un va vous dire, mais vous vous moquez de moi, ce n'est pas une glace, c'est une sauce. Donc la glace, par nature, elle doit être dure. Alors que le glaçon, il est décongelé, il s'appelle comment? Il s'appelle de l'eau. Donc il n'y a pas une différence fondamentale entre le glaçon et l'eau. C'est pas la même chose qu'avec une glace, fondue et pas fondue. Donc quand il fait très chaud, on permet de faire de la glace. Des glaçons. Mais à condition, effectivement, de ne pas presser le glaçon, parce que là, à ce moment-là, vous fabriquez de l'eau. Quand vous faites fondre de l'eau, vous la fabriquez. Donc, quand vous voulez boire quelque chose de glace, avec un glaçon, vous mettez d'abord le liquide, et après, vous jetez le glaçon on the rocks, ça s'appelle. Pas de question? Oui, une question. Le Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, de cuire, pas le droit de. Il n'y a pas d'interdiction de refroidir. Je ne vous conseille pas de mettre de l'eau dans un frigidaire. Ça abîme le frigidaire. De l'eau de robinet, vous voulez dire. Oui, d'accord. Voilà. Oui, parce que le travail de Shabbat, c'est de cuisiner, c'est-à-dire de transformer du mou en dur ou du cru en cuit. Voilà. Pas de question. Non, parce que là-bas, la glace, elle ne se conçoit que en tant que glace. Vous n'auriez jamais fait une sauce au chocolat et de la vanille molle. Vous aviez l'intention d'en faire. Donc, toute la définition de la glace, c'est d'être solide, justement. Alors que le glaçon, c'est de l'eau solidifiée. Mais en tant qu'eau, elle est buvable aussi. Donc la construction, c'est pas vous qui l'a faite, c'est le congélo qui l'a fait. Et en quelque sorte, à la limite, si vous avez un glaçon décongelé, vous le buvez quand même en tant qu'eau. Alors qu'une glace, personne ne mange une glace décongelée. Vous avez compris? Donc la définition même des deux choses n'est pas la même. Voilà. Allez, on va entamer le sujet de la paracha de la semaine. Donc, avant la fête de Rosh Hashanah, on lit toujours la paracha de Nitzavim. Nitzavim. Quelquefois, elle est cumulée avec la paracha de Vayelech, comme c'est le cas cette année. On va en lire deux. Ou soit elle est toute seule. Mais dans tous les cas, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah tombe un Shabbat ou un autre jour, on lit Nitzavim. Dans Nitzavim, il y a une question que nous allons soulever. Il y a écrit au début un thème Nitzavim Ayom, vous vous tenez aujourd'hui, Kulchem tous ensemble. Dites-nez Hachem Elokechem devant l'Éternel votre Dieu. Rachechem, vos têtes. Shiftechem, de vos tribus. Ziknechem, vos anciens. Shotrechem, vos policiers. C'est-à-dire les gens qui appliquaient la justice. justice, enfin, pas de la police israélienne, enfin, corruption, enfin de rien à voir avec ce qui se passe dans ce saint pays de la corruption. Enfin, on parle de un état saint. Shotrechem kol ish Israël, toute personne d'Israël. Tapechem les enfants, nechechem vos enfants, nechechem vos femmes, vegerecha asher bekerev machanecha, et le converti qui sera dans ton camp, mechotev etzecha, depuis le coupeur de bois, ad shoev memecha, quand? Jusqu'au puiseur d'eau. Tous ces gens-là se tiennent aujourd'hui, les ovrecha pour traverser, pour passer, vivrit Hashem et l'okecha, l'alliance de Dieu, ouvé à l'ato et sa mise en garde, cher Hashem et l'okecha notre koret imcha ayom, que Dieu contracte avec toi aujourd'hui. Donc le Talmud de Yerushalmi nous dit que ce mot de ayom, vous vous tenez ayom aujourd'hui, ça parle de Rosh Hashanah. Vous tenez aujourd'hui tous devant l'alliance, ça parle du jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on lit ça, donc, une semaine avant. On a l'habitude toujours, dans le judaïsme, avant de préparer un événement, de le toraniser d'abord. Donc on lui donne des forces au niveau de la Torah, et après on le vit. Donc c'est le sujet de lire toujours le thème de la fête avant la fête. Donc on voit que c'est très positif, vous vous tenez tous aujourd'hui pour conclure l'alliance, et là on a cité toutes les catégories de gens qui font partie du peuple juif. Femmes, hein, les enfants, les guérim, les hommes, les rabbanim, les chefs de tribu, etc. Toutes les sortes de gens possibles. Et même les gens médiocres, comme ce qu'on a cité à la fin, les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. Chacun sait que les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau, c'était des escrocs. C'était des faux convertis qui se sont intégrés dans le peuple juif au temps de Yoshua, qui se sont fait passer pour des convertis pour ne pas se faire tuer par la guerre. Donc, comme ils ont trompé la parole de Josué, ils se sont fait passer pour des gens qui venaient de loin, alors que c'était des gens qui faisaient partie des sept peuples. Ils sont habillés sont déguisés en gens qui venaient de loin. Et donc, ils ont été, sont rentrés dans la conversion par Yoshua. Et après, il s'est rendu compte que il s'est fait avoir, puisqu'ils faisaient partie des sept peuples qu'on devait, exterminer. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une sorte de neshamot très basse. Les puiseurs d'eau et les coupeurs de bois. C'est des neshamot très basses. Les dix catégories qu'on vient de citer, c'est dix catégories d'âmes. Alors, il y a des âmes des très élevées qui s'appellent les rachechem, les têtes. Et il y a des âmes très très basses qui ont un tempérament à tromper son monde, quoi. Les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. Et tous ces gens-là, sans exception, sont debout, se présentent à l'alliance de Dieu le jour de Rosh Hashanah. Donc voilà, on a dit, c'est une très jolie affirmation. Hein, que tout le monde va se trouver devant Dieu à Rosh Hashanah. Et juste après, que nous raconte la Torah? Elle nous dit, et voilà, je fais avec toi une alliance pour respecter tout ce que je te demande, et je te préviens de ne pas faire l'idolâtrie, etc., etc. Et juste après, catastrophe, la Torah vous raconte que il va y avoir des gens qui vont dire qui vont vouloir s'éloigner de Dieu. Donc, en général, c'est l'appellation classique pour parler de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie. Que nous dit le Passouk? Il nous dit, Ve'aya, Be'shomo et Divrei Alazot. Voici que, quand il va entendre, cette personne-là va entendre la Allah, c'est-à-dire la mise en garde. Une Allah, c'est une menace, oui. Quand il va entendre cette menace, c'est-à-dire cette contrepartie, quoi. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, voilà ce qui va vous arriver. Ve'idbarer bilvavo, il va se bénir dans son cœur, les morts en disant, Shalom yieli, j'aurai la paix, Shalom yieli, j'aurai la paix, je serai dans le shalom, dans la tranquillité, ki bishrirut libi elech, quand je ferai ce que mon cœur veut faire, ki bishrirut libi elech, quand j'irai dans les shrirut, les méandres de mon cœur. Mon cœur me dira de faire, je le ferai quand même. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on parle de gens qui vont penser qu'ils auront la paix en faisant ce que leur Yetzara leur dit de faire. D'accord ? C'est le cas de tout le monde. De tout le monde. Quel est le principe de la faute ? D'accord ? Quand on fait une faute, on ne pense pas que ça va être mal. Hein? Si on pensait que ce serait amer, on ne la ferait pas. Donc on pense que Shalom, j'aurai la paix de ça. Hein? Que vous dit la suite? Lo yove Hashem selo achlo, Dieu ne voudra pas lui pardonner et il va se déclencher jusqu'à ce que les cieux vont envoyer du tout. L'Ahmad, une Jan va envoyer sa bombe atomique, etc. D'accord ? Et donc, la question qui se pose, c'est comment réagir, mes chers enfants ? Comment réagir ? Quand on vous dit que vous êtes tous devant, vous vous présentez tous devant Dieu, vous allez, Rosh Hashanah, comparaître devant Dieu, et juste après, on vous dit, mais rassurez-vous, il va y avoir des gens qui vont dire, pas pitot, moi je fais ce que je veux, Shalom Yéli, j'aurai la paix quand je vais faire ce que je veux. Et ça parle pas du tout de repentir. Ça parle que vous allez déguster, mes enfants. Il parle pas du tout de repentir. Rien qu'après, il vous dit, il va vous envoyer en galoute, et il va vous faire... Rien qu'après, vous vous rappellerez de lui, etc. etc. Donc, ça commence bien, la paracha, d'accord, Rosh Hashanah. Donc, on ne vous parle plus du tout de Rosh Hashanah, on vous parle de catastrophe. On nous raconte que ça, jusqu'à la fin de la paracha, que tout le monde va s'éloigner, d'accord, les générations vont s'éloigner, pour faire Avodah Zarah, d'accord, et que, une fois que vous aurez bien pris sur vous des coups, alors, vous vous rappellerez de Dieu et vous reviendrez à lui. Donc, il y a une espèce de contraste inquiétant entre les premiers psukim et la suite de la paracha. Vous avez compris? Très inquiétant, cette paracha. Alors, dans tous les discours, on vous dit « Atem Nitzavim, Atem Nitzavim », donc vous dites « Ah, c'est formidable, c'est Rosh Hashanah, tout le monde est là, on sonne le chauffard, tout le monde est devant Dieu, au garde à vous, c'est formidable. » Mais juste après, on vous dit « Mais... plus personne n'est au garde à vous. » Donc, se pose la question de la façon dont on doit réagir devant ça. Que fait-on quand il y a... Vous voyez bien que aujourd'hui en particulier, le désespoir dans lequel le monde se trouve, la... Mevocha, l'égarement dans lequel le monde entier se trouve, pour tout le monde occidental, fait que la plupart des gens craquent. Soit ils deviennent des voleurs, soit ils deviennent des crocs, soit ils deviennent ça et ça et ça et ça. Il y a une débandade, comme on dit. Une perte des valeurs. Les gens disent gentiment, les gens deviennent fous. Ils ne deviennent pas fous, ils perdent l'esprit, ils perdent les valeurs. Donc comment doit-on réagir devant ça? C'est exactement ce qui se passe. Shalom Yéli, les gens pensent avoir la paix en faisant ce que leur cœur leur dit de faire. D'accord? Donc il n'y a pas de notion de retenue. De retenue de rien. Tout ce qui est bon à faire, ce qui est agréable à faire, les gens vont vouloir le faire. D'accord ? Oui. Donc c'est une grande question. C'est que la réaction qu'on doit avoir, c'est une réaction de quoi ? De sauve-la-nous. Sauve-la-nous. Tolérant. Réaction de tolérance. Réaction de tolérance. On vous dit, vous êtes tous devant Dieu. Donc, puisque vous êtes tous présentés devant Dieu, quel que soit votre niveau, par exemple que vous soyez rachéchem ou que vous soyez à plusieurs dos, vous êtes tous présents devant Dieu. Donc vous êtes dans le même bateau tous ensemble. Et donc, non, tout le monde ne fait pas la même bêtise, il y en a, c'est avec le fils, il y en a, c'est avec la fille de la voisine, etc., chacun dans son domaine. Donc la question, elle n'est pas qu'est-ce que les gens font, elle est comment nous devons réagir. Alors c'est pour ça que la paracha vous prévient, Atem Tsavim. Tout ce qui va se passer, c'est en vérité un problème collectif. On a toujours tendance à juger sévèrement des gens dans la mesure où on n'a pas ce problème nous-mêmes. Vous comprenez? Quelqu'un qui aime manger. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment manger. Non? Vous connaissez pas beaucoup de gens qui aiment manger? La plupart des gens aiment manger. Alors, celui qui n'aime pas manger, c'est facile pour lui de dire, de faire des régimes, surveiller vos calories, retenez-vous, vous n'avez pas honte, vous avez déjà mangé à midi, vous remangez encore ce soir. Parce que lui, il n'aime pas manger. Il n'a pas cette épreuve, donc pour lui, c'est pas chouette de faire de la morale aux autres. D'accord? Donc on lui dit, attention, le principe de faire de la morale aux autres, il est valable que si tu penses que tu es dans le même bateau que lui. C'est-à-dire, tu fais comprendre à l'autre que toi, tu n'as pas cette épreuve-là, donc tu vas l'aider à la surmonter à lui, mais ne pas se déconnecter de lui. En disant, ah non, mais bon, on n'est pas con, comment les gens sont, mais les gens sont. Toi, tu es aussi comme ça dans ton domaine à toi. Là où tu ne peux pas surmonter, fais pareil. Tu dis, Shalom Yéli, j'aurai la paix quand je vais faire ce que je veux. Hein? Donc, c'est très difficile de pouvoir critiquer les autres. On ne peut les critiquer que si on est conscient qu'on a tous la même difficulté à surnager. Mais que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont un Yetzerara, comme on l'a vu déjà une fois, du taureau. Il y a des gens qui ont un Yetzerara d'agneau. Celui qui a un Yetzerara d'agneau, il va simplement se contenter de manger de l'herbe verte au lieu de l'herbe jaune. Alors celui qui a un Yetzerara de taureau, l'herbe ne lui suffit pas. Il a besoin de casser la clôture et d'encorner le voisin, etc., de faire des tas de trucs. Imagine-toi que toi, tu as la chance, toi, parce que tu as fait beaucoup de mitzvot, et donc les mitzvot, elles calment automatiquement le Yetzera. Même si quelqu'un ne veut pas, par le fait que quelqu'un, dans sa vie, étudie la Torah et fait des mitzvot, automatiquement, il a affaibli son Yetzera. Par la nature des choses. Automatiquement. Sans rien faire. Donc, automatiquement, tu as des meilleures cartes que ton voisin. Donc, cette paracha, c'est la paracha de la tolérance, en fait. D'accepter. Il sera plus malin. Plus malin. Le rendre plus vicieux. Donc, c'est en cela qu'il est plus fort, parce qu'il va s'habiller sous une forme plus orthodoxe, plus cachère. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'absolu, il va se dire, bon, après tout, bon, il est serré à moi, il n'est pas si grave que ça, par rapport à celui-là en face. Vous vous rendez compte ce qu'il fait? Et donc, la paracha de Nitzavim, c'est justement de penser qu'on est logé à la même enseigne. Et que l'accusation de l'autre, elle est en vérité injustifiée parce que, bien que Dieu juge chacun séparément le jour de Rosh Hashanah, Nitzavim, vous êtes tous ensemble. Je vous juge tous ensemble, en tant que communauté. La preuve, on dit Kulchem, tous ensemble. Bien que je cite les différentes catégories de gens, j'ai beau les citer séparément, je les réunis en disant Kulchem. Vous avez compris? Donc, voilà pourquoi quand vous allez voir un sujet de Shalom Yeli, c'est quoi le Shalom Yeli? C'est l'incapacité des gens à retenir leur instinct négatif. C'est ce qu'on a appelé en 1968 maintenant, et tout est maintenant. Comment c'était déjà la formule? Vous qui étiez né en 1968. Tout de suite, ici, et tout. Tout est tout de suite et maintenant. Ce qui se traduit en hébreu par Shalom Arshav. Ouais, Shalom Arshav, c'est vrai. Shalom Arshav, ça veut dire je veux la paix maintenant. Peu importe si ça va m'attirer des problèmes par la suite. Donc, c'est une Ashkafa qui s'est immiscée dans le monde depuis des années et qui ne s'arrête pas. Au contraire, qui ne fait que s'intensifier. Qui ne fait que s'amplifier. Donc ça, je le répète encore une fois, pourquoi il y a cette réaction de l'islam, etc. C'est hypocrite comme réaction, mais qui est symptomatique. C'est que l'islam dit halte. Halte aux abus, halte à la corruption, halte à la débandade, en fait. Donc, si c'est une épreuve internationale, l'épreuve de la terrorisme, une épreuve internationale aujourd'hui, quelle est une réaction à ce principe de Shalom Yeli? Dire je vais avoir la paix en faisant ce que j'ai envie de faire. Et laisse-moi tranquille. Je ne veux pas le savoir. D'accord? Donc vous, quand vous avez ça devant vous, il ne faut surtout pas dire ah, il y en a qui sont comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas. Moi je me travaille. Toi tu te travailles sur ce qui t'arrange. Mais sur ce qui ne t'arrange pas, c'est exactement comme tout le monde. D'accord? Trop facile de parler des gens qui détournent des milliards. Si vous étiez devant la même situation, vous auriez peut-être détourné 10 fois plus que ce qu'ils ont fait. C'est la grande épreuve d'avoir le pouvoir et d'avoir de l'argent facile. Tolérance, ça veut dire de se présenter à Rosh Hashanah en disant « Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. » Et que dans la même situation, je réagis exactement de la même façon que telle et telle personne. Tous les cas de figure sont identiques.
Bah, comment on peut l'aider, hein? C'est en fonction de la...
en fonction du cas. Et donc c'est pourquoi, juste après, on vous dit, ne te casse pas la tête, il va y avoir un phénomène comme ça. Hein? Il va y avoir un phénomène comme ça de dégradation. Et d'où vient la dégradation? Ça vient du manque du manque de dévoilement divin. Plus le temps passe, et plus la galoute devient noire, et donc le désespoir s'installe, et devant le désespoir, on fait n'importe quoi. Donc c'est en vérité une réaction à la noirceur de l'exil. Pas une réaction délibérée. Puisqu'il n'y a pas de... d'horizon d'un monde meilleur et d'horizon d'un monde libéré, etc. Donc chacun pour soi, chacun va sauver sa peau en se livrant à son propre état. Et donc c'est pas pachoute cette histoire là parce que la responsabilité en incombe au bon Dieu, en fait. C'est le bon Dieu qui de plus en plus nous enfonce dans l'exil. Il nous met dans des situations de plus en plus difficiles et il fait comme si de rien n'était en nous disant « Restez au garde à vous !» Donc, tout le monde n'est pas capable de garder la tête froide. C'est très difficile de garder la tête froide. Non, c'est pas la connaissance qui manque, c'est le dévoilement qui manque. C'est pas de tout ce qui est clair. Vous pouvez voir des choses claires devant vous, s'il n'y a pas de dévoilement, vous ne les voyez pas. Même si vous en avez la connaissance. Donc ça demande une énorme un dévoilement de Ahavat Israël. Déclencher en soi ce sujet de d'aimer son prochain de façon à ce qu'on l'accepte dans sa descente, en disant, c'est vrai, voilà, c'est déjà prévu à l'avance. Il va y avoir l'idolâtrie va s'installer, et il va y avoir des problèmes, il va y avoir des phénomènes de galoute très forts. Et la paracha finit avec quelque chose d'extraordinaire. Elle vous dit, une fois qu'elle vous prévient la colère de Dieu et de l'exil, elle finit par une phrase remarquable, elle vous dit « Anistarot Hashem Elokeinu » les choses cachées sont dans la main de Dieu « Ve'aniglot lanu ulvanenu » et les choses dévoilées sont dans nos mains à nous. Adolam jusqu'à la fin des temps. La sot et kol divrei Torah azot de faire cette Torah. Ça veut dire tu vas voir des choses qui vont être pour toi des mystarotes. Des mystères incompréhensibles. Un mystarot, la chose de mystère. Sache que les mystarotes appartiennent à Dieu. Pourquoi Dieu aggrave l'exil? Pourquoi Dieu rentre dans une situation telle que les gens vont perdre de plus en plus la boule et la confiance? Ça, c'est un mystarot. C'est le secret que Dieu et le seul à comprendre. Et toi, Maniclotte, là, nous. Toi, tu vis avec le monde de ce que tu vois. Tu ne peux pas suppléer Dieu. Le remplacer, d'accord? C'est l'histoire de Rabbi Elimeler, de Nissen, le frère de Rabbi Zouché. Il y avait des très grandes zérotes là-bas en Europe. Et il a, avant son départ de ce monde, il a dit à ses élèves, je vous promets que je, que quand j'arriverai dans le monde supérieur, je prierai pour arrêter les décrets. Et donc il est parti, le temps a passé, évidemment, les décrets étaient toujours là. Alors un de ses élèves, je ne sais pas si c'est son frère, Rabbi Douché, ou un de ses élèves, Frère Khachoub, l'a eu en rêve. Et il lui a dit, nous, alors, comme ça, ta promesse d'enlever les décrets. Alors il dit, en bas, j'ai vu que c'était des décrets. Quand j'étais avec vous, j'ai vu des xérotes très durs, des décrets. Maintenant que je suis en haut, je vois que ce ne sont pas des décrets, ce sont des solutions. Et donc je ne peux plus réagir de la même façon. Donc c'est très très dur. C'est très dur de parler comme ça. En bas, c'était des décrets, et là-haut, c'était des pitronos, c'est des solutions. Il faut avoir une grande photo du puzzle pour se dire, ah, voilà pourquoi ça s'est passé, parce qu'effectivement, ça nettoie l'âme de celui-là, ça nettoie la... Et donc, nous avons une conscience que plus ça va et plus ça va mal. Ça, c'est ce qu'on appelle les niglottes, qu'on vous montre. Maintenant, il y a derrière ça les mystères, les choses qui sont cachées. Et donc, la réaction que vous auriez pu avoir de haïr les autres, en disant, ils sont mal, etc., sachez que ça fait partie d'un phénomène qu'on n'arrive pas à comprendre, nous-mêmes. Pourquoi Dieu déclenche une dégradation des structures sociales et communautaires, etc. Pourquoi ça va vers ça? Ouais. Si vous provoquez des générations où il y a de plus en plus de divorces, donc vous allez provoquer des enfants de divorce. Et donc, comme les enfants de divorce sont en général des cartes plus mauvaises que les enfants de couples équilibrés. Donc, qu'est-ce que vous voulez attendre d'un enchaînement dans ce sens-là? Donc ça ne peut aller que de plus en plus mal. D'accord? Alors j'ai dit, mais pourquoi? Alors quelquefois, vous êtes obligé de faire appel à cette pastouque qui termine la catastrophe, qui vous dit, une starote. Les choses sont mystérieuses. Et il n'y a que les niglottes qui sont devant nous. Nous, devant nous et nos enfants. C'est pourquoi la deuxième parachale, la deuxième parachale parle de la même chose. Elle vous dit encore la même chose, Aster, Aspir, Panay, un jour viendra où je vais cacher ma face. Je vais cacher ma face, et donc vous vous éloignerez de moi, et rien qu'après, je vous rassemblerai, etc. Donc les deux parachutes parlent du même thème, hein, que le prophète, mon cher Abénou, il parle en tant que prophète. Hein, il n'est pas en train de dire des choses qui sont éventuelles. Il est en train d'annoncer une réalité qui va avoir lieu. Quand il dit je cacherai ma face, ça veut dire que il va y avoir un phénomène comme ça. Dieu va cacher sa face. Et il n'y a pas de cause chez nous. Le Esther Panim, ce qu'on appelle le Esther Panim, il a une cause limite chez nous. Certaines fautes ont provoqué que Dieu se cache, mais l'essentiel de la fait que Dieu se cache, c'est quelque chose qui n'est pas dû à notre volonté ou à notre faute. Donc, quand Dieu y prévient, Aster, Aster, Panay, Bayou, je cacherai ma face en ce temps-là. Et donc, à ce moment-là, vous allez vous éloigner de moi et je vais vous frapper, vous allez revenir, etc. Ce sont des phénomènes qui sont déjà prévus à l'avance, programmés à l'avance. Et donc, nous, la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'atténuer la souffrance. C'est le seul travail qu'on ait à faire en exil. C'est pas de dire, ah, c'est à cause de nos fautes que nous sommes comme ça. Il y a un peu de nos fautes, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de là, du libre arbitre de Dieu. C'est obligé de dire comme ça. Et donc quand c'est comme ça, tu dois te protéger, la femme, pour que la galoute soit la moins pénible à traverser. Et donc la première mise en garde, c'est justement la mise en garde de la haine gratuite qu'il pourrait y avoir entre les gens qui vont crier sur tous les toits, voilà, celui-là a fait ça, celui-là a dit ça, blablabla. Vous voulez quoi, des chiffres? Des statistiques? Ben, vous connaissez le double discours quand on dit Mipne Chata Enu Galinu Meartzenu. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Donc, sur un certain plan, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. C'est vrai, à cause de nos fautes. On dit ça même dans le texte de Moussaf des jours de fête. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Mais quand vous lisez les livres du Harizal et de la Chassidoute, etc., il vous dit non! Les fautes, ce n'était qu'un stratagème divin pour vous faire récupérer des situations que sans les fautes, vous n'auriez jamais pu récupérer. Vous avez compris? Donc Dieu s'est servi de votre faute pour vous envoyer en mission pour faire quelque chose avec. Vous avez compris? Un mal qui n'est pas un mal, qui est un bien en fait, un bien caché. Eh oui, donc ça veut dire qu'il y a deux hashkafot olam, il y a deux visions du monde. Au niveau superficiel, nous sommes responsables de quelque chose, mais au niveau profond, c'est Dieu qui a manigancé tout ça parce qu'il y a un projet plus grand qu'on n'arrive pas à comprendre. Anistarot Hashem Elokeinu. Vous avez compris? Donc étant donné que Dieu se sert de nous, il joue avec nous en fait. Donc il faut faire attention avant Rosh Hashanah de ne pas justement essayer de séparer le peuple en plusieurs groupes, les biens et les mauvais. Vous savez, les gens qui sont propres et ceux qui sont sales. Tout le monde est en vérité dans le même théâtre. Et qu'il arrive quelquefois que le sale rôle qu'on donne à jouer à quelqu'un, vous, on ne vous l'a pas donné. Bravo, mais c'est pas pour autant que vous applaudissez vous-même que vous allez huer celui qui a le mauvais rôle. C'est un grand message de tolérance. Voilà. Voilà. On a toujours tendance à dire, ah là, il a exagéré, comment il a pu faire ça, etc. Comment cette personne a pu faire ça? Des fois, c'était inéluctable. D'accord, qui a un problème de tzniout? D'accord avec vous. Il y a un problème de tzniout, mais c'est pas à cause du problème de tzniout que tout se passe. Tout se passe parce qu'un historiote n'a jamais bloqué. Il y a des choses qui nous dépassent. Ouais. Dieu ferme de plus en plus la fenêtre, donc il y a un tout petit fil de lumière pour voir la vérité. Et on vous demande de faire comme si vous voyez tout clair. Voilà. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, il a reconnu que nous sommes la génération plus admirable que lui. Que lui, il avait un dévoilement de Dieu tellement fort qu'il pouvait comprendre qu'il aime et qu'il respecte et qu'il comprenne et qu'il pratique. Mais nous n'avons aucun rapport avec ça. Donc on vous demande de de vider un bateau qui coule avec une cuillère trouée. Vous voyez? C'est que l'année dernière, on vous a donné un seau quand il y avait moins d'eau. Maintenant qu'il y a plus d'eau dans le bateau, on vous a enlevé le seau, on vous a donné une cuillère. Maintenant, on vous enlève la cuillère, on met un trou dans la cuillère. Alors, il va dire, enlève l'eau, continue à enlever l'eau. Alors, quel résultat vous voulez avoir? Admatai. Vous avez compris comment ça marche? Donc, vous avez un coude pour enlever de l'eau qui est un bateau qui coule. Exactement. Donc, quand vous savez où on en est, c'est sûr que vous aurez une plus grande tolérance pour tous les catastrophes que vous pouvez entendre. Donc, soi-même, on doit essayer d'être honnête et de ne pas se trouver des excuses pour en faire autant. On dit, bah, ben, puisque tout le monde est corrompu, allez, je vais aussi être corrompu, puisque plus on est fou, plus on rit. Comme il a expliqué le saint Rabbi Nachman de Breslev, qui a raconté l'histoire de la récolte. Tout le monde a mangé de la récolte empoisonnée, et donc tout le monde devenait fou. Vous ne connaissez pas ce conte de Rabbi Nachman? Oh! Rabbi Nachman, c'était le roi, ils avaient de la récolte. Et le prince, enfin le ministre vient voir le roi et lui dit, sire, la récolte rend les gens fous. C'est une récolte folle. Donc tous les gens vont manger ce pain et donc tout le monde va devenir fou. Alors le roi dit au ministre, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder de la vieille récolte de l'année dernière. Et on va la garder, tous les deux, toi et moi, on va manger notre propre pain. Comme ça, on restera sain d'esprit devant les gens qui deviennent de plus en plus fous. Alors, ils ont leur petit pain chacun. Tout le royaume devient fou. Et après, bah, ils se trouvent que les deux, quoi. Tous les deux normaux. Alors, le ministre dit au roi, qu'est-ce qu'on fait, sire? Alors, il dit, bah, il faut faire comme eux parce que sinon, c'est nous qui allons être fous par rapport à eux. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est la situation avant que le Mashiach ne vienne. C'est pas comme ça. Donc il avait déjà visualisé 2 siècles et demi avant, prophétisé la dégradation dans laquelle le monde serait, effectivement, c'est ce qu'on appelle la récolte des fous. Donc qu'est-ce que fait le juste? Le juste, il ne mangera pas la récolte. Il attend que la nouvelle récolte ne rende pas les gens fous. Donc c'est une situation de cancer. Ça envahit tous les gens et tous les mondes. Donc nous, on doit, quand arrive au Shoshana, on ne doit pas dire, ah, nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous sommes des gens propres. Maintenant que le monde s'écroule, après nous, le déluge. Il faut dire non, au contraire. Dire à Dieu, c'est bien gentil, mais on n'arrive plus. On n'arrive plus. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard, parce que le son du chauffard, c'est un cri qui vient de la profondeur de l'âme pour dire à Dieu d'arrêter l'exil. D'arrêter le métzar, l'étroitesse dans laquelle on se trouve. Et de nous sortir dans la largesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans cet écueil de la haine par rapport aux autres en disant nous on va être inscrits dans le livre de la vie, puis les autres on s'en fiche, qu'il arrive ce qu'il arrivera, nous on va être on aura une bonne année et les autres ils ont pas vrai, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut se sentir chaillard, solidaire en rapport avec tous les autres. Au contraire, il faut regarder son dossier et dire à Dieu, aie pitié de lui. Si tu lui donnais une compensation, ben, peut-être qu'il n'agirait pas de cette façon-là. Ouais. Vous connaissez la formule du Rabbi Levi Strak de Berditchev, qui disait, Ribono shel olam, si le Yetzer Hara était dans les livres, et que la Torah et les mitzvot étaient dans la rue, je te comprends que tu nous punisses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si le Yetzer Hara il est dans les rues et les belles choses sont dans les livres? Si tu veux savoir où est la vérité, tu es obligé d'ouvrir le livre. Tu veux savoir où le faux, il est partout. Donc, comment tu veux être incité à ouvrir le livre plutôt qu'à aller voir le faux? Alors, on veut que Dieu renverse la tendance. Qu'il mette toutes les crapuleries, toutes les pourritures dans une encyclopédie, en souvenir, qu'on mettra dans un musée, et qu'il nous mette la rue les gens ça. Qu'il renverse la tendance, un petit peu tout. Voilà, donc c'est ça notre préparation, cette conscience de la difficulté qu'on a à se présenter devant Dieu. Donc il faut dire, nous sommes tous devant toi, juge-nous avec clémence. Nous sommes les victimes de ton projet de galoute. C'est vous ? Voilà. 9h boule. Je ne perds pas le sens du temps. Nous remercions les auditeurs de chassidut.org qui ont bien voulu nous écouter ce soir. Shabbat shalom.